Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme aujourd'hui, l'actualité sportive, les informations économiques de la semaine en Australie, c'est notre rendez-vous habituel du jeudi. Et puis on va revenir dans Europa Voice sur cette crise des sous-marins qui agite les relations entre la France et l'Australie. On en parlera avec Nathanaël Bloch. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal, on y va. Vers un début d'apaisement entre la France et les États-Unis dans le cadre de la crise des sous-marins qui a éclaté la semaine dernière, Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé et Paris a décidé de renvoyer son ambassadeur à Washington après qu'il en ait été rappelé samedi dernier. La forteresse Australie bientôt rouverte, le ministre du Tourisme australien promet en tout cas la réouverture des frontières d'ici à Noël au plus tard. Et en France, une nouvelle journée intense au procès des attentats du Bataclan avec les témoignages du chef de la BRI qui a mené l'assaut contre les terroristes mais aussi celui du commissaire de la BAC, le premier policier à être entré dans la salle de spectacle. Une semaine après le début de ce qu'on appelle désormais la crise des sous-marins, un début d'apaisement entre Paris et Washington. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont enfin parlé. Une discussion à l'issue de laquelle la France a décidé de renvoyer son ambassadeur à Washington. Il avait été rappelé à Paris samedi dernier, une première dans l'histoire des relations entre la France et les États-Unis. Et puis, dans un communiqué commun, les deux présidents assurent, sans beaucoup plus de précision pour l'instant, qu'ils vont travailler pour rétablir la confiance entre les deux pays. À Washington, la correspondance de Guillaume Nodin pour RFI.
Une conversation d'une trentaine de minutes qualifiée d'amicale à la Maison Blanche et à la fin, une liste de points d'accord. Après la semaine qui vient de s'écouler, c'est déjà quelque chose. Ils sont donc d'accord pour dire que des consultations ouvertes entre alliés auraient permis d'éviter la situation, autrement dit, la crise diplomatique entre les deux pays. Cette crise, les deux dirigeants ont apparemment décidé d'y mettre fin en lançant un processus de consultation approfondi pour mettre en place les conditions garantissant la confiance, sans plus de précision. Ce qui est plus précis, c'est que les deux chefs d'État vont se voir en Europe à la fin octobre et que l'ambassadeur de France rappelé pour consultation va rentrer à Washington la semaine prochaine. Plus largement, les États-Unis reconnaissent le rôle stratégique de la France et de l'Union européenne dans la région Indo-Pacifique, ainsi que la nécessité d'une défense européenne plus forte et plus performante pour contribuer positivement à la sécurité transatlantique. C'est exactement ce que la France exprime depuis des mois en tentant de convaincre ses partenaires européens. Désormais, le président des États-Unis le dit aussi avec une nuance. Ce sera en complément du rôle de l'OTAN. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et en ce qui concerne l'ambassadeur de France en Australie, également rappelé à Paris samedi dernier, rien pour l'instant n'a été annoncé du côté du gouvernement français. En revanche, depuis Washington, Scott Morrison a assuré avoir tenté de prendre contact avec Emmanuel Macron. Il espère pouvoir, comme Joe Biden vient de le faire, s'expliquer directement avec lui. On l'écoute.
I look forward when the time is right and when the opportunity presents that we will have a similar discussion. Yes, we have, and the opportunity for that call is not yet. But we'll be patient. We understand their disappointment. But at the end of the day, as a government, we have to do what is right for Australia and serve Australia's national security interests. And I will always choose Australia's national security interests.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est montré pour sa part beaucoup moins élégant puisqu'il a en gros appelé les Français à se calmer.
I just think it's time for some of our dearest friends around the world to, you know, prendre un grip about all this and donnez-moi un break because this is fundamentally a great step forward for global security. It's three very like-minded allies standing shoulder to shoulder, creating a new partnership for the sharing of technology.
Et en Australie, il est l'un des rares à critiquer cette nouvelle alliance de l'Australie avec les Américains et la Grande-Bretagne. L'ancien Premier ministre Kevin Rudd, qui avait fait part de ses réserves dans une tribune publiée dans le journal Le Monde un peu plus tôt cette semaine, s'est également adressé à nous, SBS French. Il déplore notamment la façon dont la France a été traitée par l'Australie dans cette affaire et il pense que Scott Morrison a encore beaucoup de comptes à rendre.
He has yet to explain fully to the Australian public and people why it is technically and strategically necessary to move to nuclear-powered submarines. He should have notified the French government. Secondly, he should have notified the French construction company. He should have re-tendered the entire project and invited France, the UK and the United States to provide bids.
Voilà, et sur le sujet, Kevin Rudd nous a dit beaucoup d'autres choses. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur notre site SBS French pour écouter cette interview en intégralité. On revient maintenant en Australie où, en raison de la pandémie de coronavirus, les frontières du pays sont fermées depuis mars 2020. Elles seront ouvertes d'ici à Noël au plus tard, c'est ce que promet le ministre du Tourisme, Dan Tehan. Et malgré les réticences de certains États, comme le Queensland ou l'Australie occidentale, il assure que cet objectif sera tenu. Alors, on rappelle à ce sujet que le cap à franchir, c'est 80% de la population adulte vaccinée. Et Dan Tehan, donc, pense que l'Australie est bien partie pour y arriver avant la fin de l'année. C'est ce qu'il a expliqué sur le Nine Network.
The plan is to start with outbound travel, so for Australians travelling overseas, and then what we put in place for inbound travel will be consistent with our travel bubbles. Obviously with New Zealand we're able to do that quarantine free, and it'd be great if we could get that up and running again. And then we're in discussions with the Pacific Islands, Singapore, Japan, South Korea, the US, the UK on what those travel arrangements will look like.
En parallèle, toujours sur la question du coronavirus, le nombre de nouveaux cas reste stable en Nouvelle-Galles du Sud avec 1063 cas positifs annoncés aujourd'hui ainsi que 6 nouveaux décès. Le confinement dans les secteurs de Glen Innes et Orange seront levés ce soir à minuit. Brad Hazard, le ministre de la Santé de l'État, a pour sa part relevé la baisse significative du nombre de nouveaux cas dans l'ouest et le sud-ouest de Sydney, les zones qui avaient été les plus touchées par l'épidémie en cours.
The cases to 8 p.m. last night in Western Sydney were 220. I compare that back to 2 weeks. I picked the 11th of September as a date, and what I found was that there were 444 cases on the 11th of September. So to drop to 220 is actually a really positive indicator. Southwest Sydney last night was up to 294 cases, and again back on the 11th of September was 490. So again, to the people of Southwest Sydney and Western Sydney, you're doing a great job.
Malheureusement pour l'État du Victoria, le bilan du jour est un peu moins encourageant avec aujourd'hui 766 nouveaux cas et 4 décès annoncés. C'est le bilan le plus lourd recensé dans cet État depuis le début de la pandémie. Et à l'image des manifestations violentes qui se sont déroulées ces derniers jours à Melbourne, il y a aussi en Australie des résistances vis-à-vis de la vaccination. Alors pour les faire céder, les autorités du Queensland ont eu une idée. Les personnes qui se feront vacciner dans le nord de Brisbane et dans la banlieue de Logan seront inscrites d'office à une tombola avec à la clé la possibilité de gagner des places pour assister à la finale de la NRL, la Ligue de rugby, finale qui se joue ce week-end. Alors au total, il y a 6000 places à gagner et elles seront offertes aux personnes qui vont se faire vacciner entre aujourd'hui et la date de cette finale. On revient sur l'actualité internationale avec l'Assemblée générale des Nations Unies, actuellement donc réunie à New York et qui s'est engagée à lutter davantage contre le racisme à travers le monde. Cette prise de position intervient 20 ans après une déclaration forte sur le sujet, la déclaration de Durban en Afrique du Sud. Les chefs d'État et de gouvernement ont abordé de nombreuses questions, comme par exemple celle des réparations, de la justice raciale ou encore de l'égalité de traitement pour les personnes d'ascendance africaine. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a lui estimé que le combat contre le racisme était très loin d'être terminé.
We are witnessing a troubling rise in antisemitism. We must condemn without reservation or hesitation the racism and discrimination of growing anti-Muslim bigotry, the mistreatment of minority Christians and other forms of intolerance around the world.
On reste aux États-Unis où la polémique enfle à propos des expulsions en cours de migrants, des migrants pour la plupart haïtiens. Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a appelé Joe Biden à mettre fin à ce qu'il qualifie d'expulsion ignoble. Pour Olivier Richom, maître de conférences en civilisation américaine à l'université Lyon 2, la majorité démocrate ne sait pas comment se sortir de cette situation. C'est ce qu'il a expliqué à nos confrères de RFI.
Ces démocrates sentent bien que ces politiques sont au contraire à leurs valeurs et parfois aux promesses qu'ils ont faites lors de leur campagne électorale. Et c'est un casse-tête pour toutes les administrations, qu'elles soient démocrates ou républicaines, cette gestion de crise humanitaire à la frontière créée par notamment le président Trump et continué par Joe Biden. On se sert de la Covid, de la pandémie pour renvoyer les gens plus rapidement. Et donc, en fait, on a un message pour l'instant qui est brouillé. Et ça, c'est très mauvais d'un point de vue électoral, on va dire, pour les démocrates, pour le cycle électoral qui arrive en 2022. C'est pour ça que beaucoup de démocrates sont très critiques. C'est qu'on pourrait avoir une politique qui soit un peu plus humaine, qui surtout soit beaucoup plus lisible pour le peuple américain. On ne pourra pas accepter tout le monde, mais on pourrait quand même avoir des mesures fortes qui permettent un peu que l'électorat démocrate s'y retrouve.
En France, une nouvelle journée intense hier au procès des attentats du 13 novembre 2015. La Cour a entendu les témoignages de Christophe Molmy, le chef de la BRI. La BRI qui a mené l'assaut contre les terroristes du Bataclan, mais aussi le témoignage du commissaire de la BAC, celui qui a été en fait le premier policier à pénétrer dans la salle de spectacle où il a pu abattre l'un des assaillants, et ce quelques minutes seulement après le début des attaques. On revient sur cette journée d'audience avec Pierre Olivier pour RFI.
Le calme du commissaire venu témoigner à la barre contraste avec l'horreur qu'il va décrire pendant près de 2 heures. Arrivé en premier sur les lieux, armé de sa simple arme de service, il prend la décision d'entrer dans la salle sans attendre les renforts. Il faut y aller, dit-il à son chauffeur. On a poussé les portes en se disant qu'on ne les repasserait peut-être jamais dans l'autre sens, commence-t-il. Dos à la salle d'audience médusée, il décrit ensuite une succession de scènes apocalyptiques. D'abord, celle d'un tapis de corps, parfois sur plus d'un mètre de hauteur dans la fosse du Bataclan. Puis lorsqu'il parvient à tirer sur un terroriste situé sur la scène, des confettis semblent voler, cela s'avérera être de la chair humaine. À 2 reprises, le commissaire retournera à l'intérieur de la salle, notamment pour extraire des blessés extrêmement lourds à déplacer car leurs vêtements étaient imbibés de sang, explique-t-il. Puis, la voix nouée, le commissaire conclut « on n'avait que notre courage à opposer aux terroristes ». Pierre-Olivier au Palais de Justice de Paris, RFI.
Pour finir, on jette un œil à la météo de ce jeudi en Australie. 25 degrés et quelques nuages dans le ciel de Perth aujourd'hui. Soleil et 20 degrés à Adelaide, 21 degrés à Melbourne, 25 degrés à Sydney où il fait très beau. Idem à Brisbane, tant au niveau du temps que de la température, 27 degrés à Cairns et jusqu'à 34 aujourd'hui à Darwin.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot, la Ligue 1 en France. Il y avait 10 matchs hier et 7 sur 7 pour le Paris Saint-Germain contre Metz, 2-1. Le deuxième but parisien a été marqué à la dernière seconde par Achraf Hakimi qui réalise un doublé. Éric Mamrut, Radio France Internationale.
Le Paris Saint-Germain ne lâche rien. Comme dimanche dernier contre Lyon, le PSG l'a emporté sur le gong à Metz et sur le même score de 2-1. Cette fois, c'est Achraf Hakimi qui a joué les sauveurs. Le défenseur marocain buteur à la 95e minute d'une belle frappe du gauche. C'est lui déjà qui avait ouvert le score à la 4e minute. Dans l'intervalle, le club parisien a joué les intermittents du spectacle contre la lanterne rouge du championnat. Pas forcément rassurant, une semaine de son choc contre Manchester City en Ligue des Champions. Le PSG a reçu 7 sur 7 qui creuse l'écart en tête de la Ligue 1, puisque son dauphin Marseille a été accroché à Angers 0-0. L'OM est à 7 longueurs du leader, les Angevins désormais sur le podium à 8. Ex aequo avec Lens et Lorient, le club nordiste a été battu chez lui par Strasbourg 1-0, tandis que les Bretons dominaient Nice 1-0. Suit juste derrière l'Olympique Lyonnais, vainqueur 3-1 de 3, même score pour Monaco devant Saint-Etienne et pour Nantes contre Brest. Victoire de Lille face à Reims 2-1, Montpellier-Bordeaux 3-3. Enfin, Rennes, qui restait sur 3 matchs de Ligue 1 sans marquer, s'est bien rattrapé en humiliant Clermont 6-0.
Lionel Messi est blessé au genou et n'a pas joué pour Paris contre Metz hier. Analyse maintenant de cette blessure sur Radio Foot International en compagnie d'Annie Gasnier, Patrick Julliard et Naïm Moniol.
Naïm Moniol, c'est fin de la polémique ?
Non mais moi je suis atterré qu'il y ait une polémique en fait. Moi je suis atterré que l'entraîneur doive se justifier de faire son travail. Il sort Lionel Messi, que ce soit parce qu'il est blessé.
Lionel Messi, c'est quand même Lionel Messi, c'est le premier qui sort.
Alors qu'une équipe est encore... Je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas de Lionel Messi, c'est Lionel Messi. Parce que j'ai déjà aussi entendu Neymar, c'est Neymar, Mbappé, c'est Mbappé, Verratti, c'est Verratti.
Non. Mais on a le droit de s'étonner, simplement.
Messi ou pas Messi. Non, mais Messi, il a fait 2 matchs et 15 minutes au PSG. Je suis pas sûr que physiquement, il soit prêt à pouvoir enchaîner 2 matchs par semaine, alors qu'il y a eu tout un imbroglio autour de son arrivée. Ça a été tardi. Et qu'en plus l'année dernière il a fait aussi une préparation très tronquée, donc il a 34 ans, il est pas à mon avis à 100%, il a aussi le droit d'avoir un coup de moins bien, de pas être efficace, qu'il se soit blessé ou parce qu'il est pas efficace ou parce que Pochettino a jugé que tactiquement c'était lui qu'il fallait sortir et pas un autre. Moi, je suis atterré que le mec doive se justifier de faire son boulot.
En Espagne, le Real de Madrid en tête a battu Mallorca 6-1, Séville 3e au classement a battu Valence 3-1, Valence est 4e au classement général. En Italie, l'AC Milan, 2e au classement, a battu Venise, 2-0. La Ligue Cup en Angleterre, il y avait 3 matchs hier. Manchester United s'est incliné face à West Ham, 1-0. Tottenham et Wolves ont fait match nul, 2-2. Et Chelsea et Aston Villa ont fait match nul également, 1-2. Mardi, il y avait 2 matchs avec la victoire écrasante de Manchester City contre Wickham, 6-1, et victoire également de Liverpool contre Norwich, 3-0. Le foot féminin, les Matildas battues par l'Irlande, 3-2. Mary Fowler a marqué les 2 buts australiens. Sam Kerr, la capitaine, jouait son 100e match international. On écoute la réaction de cette défaite australienne avec le coach des Matildas, Tony Gustafsson.
I said in the circle with the team afterwards that it felt that they wanted it more than us. You know, and that's not okay, you know, with the Matildas. You know, it's in our DNA to always give it 100, to play a physical game, to be aggressive, to wear the crest on the chest and always play our best. And it felt like Ireland wanted it more.
Mardi, les Françaises avaient gagné la victoire au bout du temps additionnel contre les Slovènes, 3-2. C'était lors des qualifications à la Coupe du Monde de 2023. Samuel Eto'o est candidat à la présidence de la Fédération de foot au Cameroun, comme nous l'explique Cédric de Oliveira pour RFI.
À 40 ans, l'ancien international l'a annoncé sur les réseaux sociaux à moins de 3 mois de l'élection. Avec cette candidature, il veut enfin en finir avec l'instabilité chronique des instances de son pays qui nuit, selon lui, au développement du football camerounais. Il est temps de reconstruire notre football. Nous ne pouvons pas retarder la refonte de notre sport numéro 1, a-t-il déclaré dans un document de 2 pages où il détaille son projet. Eto'o imite ainsi Didier Drogba qui s'est lancé dans un défi similaire en Côte d'Ivoire. Un long processus électoral commence pour lui qui doit s'achever normalement le 11 décembre lors de l'Assemblée Générale Fédérale de la FECAFOOT, une fédération qui a subi de nombreux changements de gouvernance depuis 2013.
En Afrique toujours, les Camerounaises, championnes de la CAN de volleyball le week-end dernier, sont rentrées chez elles. Reportage Étienne Arthur Defoe pour RFI.
Salon VIP de l'aéroport international de Yaoundé Simalène, le ministre des Sports et de l'Éducation physique transmet aux héroïnes les félicitations du couple présidentiel Paul et Chantal Biya.
parents, amis et toutes les autres sélections nationales étaient là pour un accueil des plus chaleureux. 3 jours sans entraînement à cause de la suspension du Rwanda par la FIVB, une sanction qui a bloqué la compétition. Quand elle a repris, il fallait jouer la demi-finale et la finale le même jour. Il faut aller chercher les ressources psychologiques et ce d'autant que l'adversaire a eu 3 heures de récupération de plus. Christelle Nana, meilleure joueuse du tournoi.
On a encore écrit l'histoire du volleyball camerounais. 3 cannes consécutives, c'est une première. Et je sais que tout le peuple camerounais nous a soutenus. Et si j'ai pu avoir ce MVP, c'est parce que toute la team était avec moi.
Laetitia Moma, 2 fois meilleure joueuse, est cette fois-ci meilleure serveuse.
Pendant la compétition, j'ai pas vraiment aimé mon jeu. Le plus important, c'est que on est rentré avec la victoire, donc c'est ce qui compte. Et j'ai été récompensé.
Après la cérémonie protocolaire, c'est un cortège d'une 40aine de véhicules qui a accompagné les Lyonnais à leur hôtel.
Tennis, les tournois se poursuivent et on se concentre sur Metz, notamment, où ça passe pour le Français Lucas Pouille contre le Canadien Braden Schnoor en 3 manches. Gaël Monfils, tête de série numéro 3, jouera ce jeudi contre l'Allemand Philippe Kohlschreiber. Andy Murray, l'Écossais, 113e mondial, qui a obtenu une wild card pour ce tournoi, a battu Vasek Pospisil, le Canadien, en 2 manches. Et l'Australien Alex de Minaur, tête de série numéro 4, fera son entrée ce jeudi contre l'Américain Marcos Giron. Mot de l'AFL pour vous dire que la grande finale entre Melbourne et les Western Bulldogs aura bien lieu au Perth Stadium ce samedi 25 septembre à partir de 17h15 heure locale. Liz Watson a été nommée capitaine de l'équipe australienne de netball. Elle mènera ses coéquipières contre l'Angleterre le mois prochain en Grande-Bretagne. Pour le moment, elles sont tournées en Nouvelle-Zélande pour un tournoi amical. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait.
Ah oui, Milo!
La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient. Les différences s'effaçaient et des rires éclataient. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache. Foutaise, c'était les ragots des jaloux et quoi qu'on en dise, nous on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire
aïe, aïe, Milo!
Je danse le Mia, vous avez bien sûr reconnu ce classique du groupe marseillais IAM. Vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français et il est 13h27. On passe maintenant à notre rendez-vous du jeudi. C'est le moment où on fait le point sur les actualités économiques de la semaine en Australie. Et comme d'habitude, pour cela, on retrouve Jean-Noël Ducasse et Nicolas Perpich.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Oui, bonjour, Jean-Noël.
Un autre changement dans les lieux de travail depuis la pandémie, c'est que la santé mentale des travailleurs maintenant doit être prise beaucoup plus au sérieux.
Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, ça fait des années, bien sûr, qu'en Australie, on prend des sickies quand on se sent pas très bien ou les gens n'ont pas très envie d'aller au travail. Mais là, ça devient plus sérieux. En fait, il y a même eu une étude du Bureau australien des statistiques qui montre que 1 sur 5 des Australiens sentent du stress psychologique ou mental. Donc, c'est quelque chose que les compagnies les travailleurs prennent plus au sérieux. Et il y a même certaines compagnies qui déjà ont des jours de congé qui sont des « mental health days ». Et ils appellent ça, par exemple, un « donor day », où tu peux rester chez toi pour te remettre. Tu n'as pas vraiment besoin d'avoir une vraie raison, sauf que tu ne te sens pas bien et tu as besoin juste d'une pause. Et donc, les employeurs qui maintenant prennent ça au sérieux et disent « oui, on veut donner ça à nos travailleurs parce que c'est important pour eux », s'ils nous disent qu'ils ont des problèmes, qu'ils sont stressés, qu'ils ont juste besoin d'un « day off », ben, on va leur donner ça. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup de... de compagnies qui font ça pour le moment, mais il y en a de plus en plus. Et alors, ils disent que aussi, que c'est important pour la santé en général, et qu'il faut éviter le burn-out. Et ça, le burn-out, c'est maintenant une maladie qui a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Ils appellent ça « the chronic workplace stress ». Et donc, ça devient plus ou moins officiel. En même temps, ils disent « oui, c'est bien si ton employeur te donne un jour de congé ou deux, comme ça, mais ça ne va pas régler tous les problèmes. Il y a des causes de ces problèmes, il y a des raisons pour ce stress. Et c'est donc il faut adresser ces raisons de stress aussi. Pas juste à dire qu'on va prendre un jour de congé ou deux, que tout va aller très bien non plus. Et en fait, il faut que les employeurs investissent dans des moyens pour soutenir les employés, pour leur donner du soutien de santé mentale. Et en fait, il y a une agence de comptabilité et Beyond Blue qui ont trouvé que pour chaque dollar qu'une organisation dépense sur la santé mentale de leurs employeurs, ils gagnent à peu près 2,30 $ en bénéfices. Donc c'est vraiment ça vaut le coup pour les compagnies. Mais aussi, ils trouvent que pendant cette pandémie, c'est les travailleurs en première ligne de la pandémie, comme les pompiers, les infirmières, les médecins, les gens qui travaillent même dans les restos, les bars. C'est souvent eux qui sont le plus stressés, ils ont le plus de pression, mais c'est dans ces secteurs de l'économie où il y a moins de reconnaissance de ce besoin d'avoir des jours off pour la santé mentale. Donc, il y a encore pas mal de travail à faire dans cet endroit assez nouveau quand même.
Et puis, Nicolas, on va parler de la Grand Final, c'est la finale de la AFL chez vous en WA à Perth samedi prochain. Et vous habitez à Perth, Nicolas, c'est un énorme événement. Et je crois que vous avez aussi obtenu des billets.
Oui, tout à fait, je vais au Grand Final, je vais soutenir les Western Bulldogs au Grand Final, et beaucoup de chance alors. Alors, c'est énorme comme événement, parce qu'on n'a jamais eu ça ici, mais c'est un des plus grands événements sportifs en Australie. Alors, tous les chambres d'hôtel sont déjà complets, les gens dépensent énormément pour acheter des bonnets et des habits des deux équipes. C'est difficile à en trouver. Moi, j'ai trouvé trouver des écharpes des Western Bulldogs. C'était pas facile. Il y en avait plus qui restaient des Melbourne Demons. Donc, il y a beaucoup de ventes qui se passent pour ça. Mais aussi, c'est pour les fournisseurs pour le Grand Final. Et ça, c'est énorme. Les quantités de nourriture qu'ils vont devoir fournir. Par exemple, juste, il va avoir 61 000 spectateurs à Optus Stadium et ils vont avoir 9 tonnes de chips. 9 tonnes de chips, ce qui est énorme. Alors, il n'y aura pas seulement ça. Il y aura 6 000 morceaux de poisson. Ils pensent qu'ils vont vendre 23 000 pies et 7 000 hot dogs et aussi 4 000 pizzas. Donc, ça va être vraiment assez, assez énorme. Ils pensent qu'entre aujourd'hui et dimanche, les gens ici en Australie-Occidentale vont dépenser 200 millions de dollars sur la nourriture et l'alcool vis-à-vis le Grand Final. Donc vraiment, ça va être un énorme événement et il y a beaucoup d'excitation ici. Même que les deux équipes sont de Melbourne, il n'y a pas d'équipe de l'Australie-Occidentale dans la Grand Final, mais vraiment, ce n'est pas grave. Tous les gens ici, ils ont adopté une des équipes. Alors ça va être formidable.
Et Nicolas, j'ai lu sur le site internet qu'il y avait 180 000 personnes qui faisaient la queue en ligne pour les 10 500 billets disponibles.
Incroyable. Oui, parce que d'abord, il y avait eu les billets pour les gens qui étaient members des deux équipes. Donc ça, c'est parti très, très vite. Et après, il y avait seulement 10 000 à peu près, oui, un peu plus de 10 000 billets pour general admission et 180 000 personnes qui en voulaient. Et c'est parti en je crois que c'était 11 minutes. Ils ont tous été vendus. Donc, c'est incroyable. Alors, avec ma femme, on a énormément de chance. On a des billets juste derrière les Golds. Et on a acheté des écharpes des Western Bulldogs et on va crier Go Doggies.
Et les Western Bulldogs sont les underdogs pour cette finale.
Oui, voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien voir Melbourne gagner puisqu'ils n'ont pas gagné depuis si longtemps.
Et d'après ce que je comprends, il y a les derniers entraînements des équipes ce jeudi dans le stade et il y a quelques 25 000 spectateurs qui... Ils vont pouvoir venir y assister et pas payer pour les billets.
Voilà, donc ils ont été donnés des billets gratuitement et ça aussi, c'est parti dans quelques minutes. C'était dingue, absolument incroyable. Et les gens ici, ils adorent le footy et ils vont être là pour l'entraînement. Et puis, il y a eu même le Brownlow qui était ici. Et ce qui est formidable aussi, c'est que il y a la promotion de la musique locale, la musique, les groupes de l'Australie-Occidentale qui vont jouer au début, avant le match et à la mi-temps. Donc, il y a des groupes très connus comme Birds of Tokyo et Eskimo Joe. Il y a au Brownlow Medal, il y avait The Southern River Band. Donc, c'était vraiment très, très sympa.
Et d'après ce que je vois aussi, les prévisions de la météo sont bonnes. Il va faire autour des 24 degrés samedi prochain.
Oui, voilà, 24-25 degrés. Donc, le kick-off, c'est à peu près 5h30 du soir.
Le local.
La température aurait baissé par à peu près 7 degrés à cette heure-là, donc il fera peut-être 18 degrés, ce qui est sympa, un peu nuageux peut-être, mais très peu de chances de pluie, donc ça c'est excellent.
Et on va essayer de vous appeler, Nicolas, juste après la grande finale pour recueillir quelques impressions, si possible.
bien sûr, avec grand plaisir. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup pour cette analyse et à très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Europa Voice numéro 86, comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors, on a beaucoup à parler aujourd'hui, notamment toute cette question des sous-marins et la relation française, européenne, australienne, qui a quand même été mise à mal ces derniers temps. On n'aurait pas pu le prédire comme n'importe qui d'autre la semaine dernière. On en est où aujourd'hui de cet affront, on peut dire, que la France a reçu de la part de l'Australie?
Alors effectivement, Christophe,
je mâche pas mes mots. Hein.
non, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'imprévisible. Et c'est d'autant plus imprévisible. C'était d'autant plus imprévisible que j'allais dire les derniers documents officiels, les dernières discussions officielles font état d'une certaine satisfaction des autorités australiennes sur le programme en cours, pas plus tard que je crois jeudi dernier, hein, donc le jour même où le contrat a été dénoncé. Et puis on a vu effectivement, hein, par rapport à la qualification de ce qui s'est passé, un langage diplomatique assez extraordinaire, hein, parce que à la fois en France le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, mais également ici, hein, l'ambassadeur de France en Australie Jean-Pierre Thébault, n'ont pas eux-mêmes mâché leurs mots et ont parlé, et là je reprends leurs termes, hein, le terme notamment de Jean-Yves Le Drian, de couteau dans le dos, d'attaque dans le dos, et de choses qui ne se font pas entre alliés. Donc effectivement, une séquence à la fois imprévisible et extraordinaire en ce qu'elle entraîne même des relations diplomatiques et de la manière dont les diplomates ont géré la crise qui est encore en cours, Christophe.
Ouais, alors si on détaille un petit peu ce qui s'est passé, cet accord australo-britannique, américain, qui a un nom presque imprononçable que je vais même pas essayer de prononcer. On en sait quoi de cet accord? Parce que ça reste quand même un peu une nébuleuse. On sait qu'il y a un accord de sous-marin, il y a un accord de travail ensemble, c'est plus ou moins contre la Chine à mots cachés. On en sait quoi de cet accord?
Alors, effectivement, Christophe, c'est du billard à plusieurs bandes. Ce qu'on sait, enfin en tout cas ce que les analystes disent, c'est que cet accord AUKUS, pour ne pas le nommer, hein, entre Australie, UK et US, hein, c'est vraiment l'idée d'avoir une alliance militaire, d'avoir une capacité de réaction face aux velléités chinoises. Et c'est d'avoir en fait des sous-marins nucléaires, hein, pour la première fois pour l'Australie en l'occurrence. C'est les deux choses pour l'instant qui ont plus ou moins été relayées dans la presse, c'est ces deux aspects-là. Après, en fait, dans les détails, on n'en sait pas plus. Et puis, il y a plein de questions, Christophe, qui restent encore en suspens. C'est-à-dire que on sait que la France, et notamment par l'intermédiaire, et là aussi, c'est assez intéressant parce que c'est une des premières fois qu'on voit Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées, être aussi loquace sur les réseaux sociaux. Mais c'est là aussi, on voit le rôle au sein des ministères de ces porte-paroles, c'est de faire un peu la pédagogie de dossiers qui sont d'habitude très complexes à saisir, très compliqués, autour desquels il y a beaucoup de fantasmes. Il a expliqué dans un de ses nombreux threads sur Twitter, donc c'est ces fils d'explication très longs, que en fait, si c'était juste une question de fournir des sous-marins nucléaires à l'Australie, la France aurait pu le faire aussi. Donc vous voyez, ça c'est encore un élément, on ne sait pas très bien si c'est la raison, si c'est pas la raison de ce revirement des Australiens. Encore une fois, ce qu'on sait, c'est que cette alliance trilatérale, c'est un partenariat de sécurité pour faire face, le cas échéant, à la Chine avec des sous-marins nucléaires. Voilà, c'est pour moi les deux éléments pour l'instant qui sont à peu près sûrs et à peu près compris et partagés par tous. Et puis derrière, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on va découvrir dans les prochains jours, Christophe.
La réponse européenne, est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer ce qui s'est passé et comment l'Europe a répondu à ça? La France a-t-elle été plutôt isolée ou soutenue? On sait que von der Leyen a parlé, mais c'était il y a un petit moment. Comment on peut évaluer donc ce soutien européen ou manque de soutien européen avec un pays membre comme la France?
Alors, on peut dire que à l'heure à laquelle on enregistre Christophe, hein, maintenant, oui, la France ne traverse plus seule, j'allais dire, cette crise des sous-marins. C'était un peu le message d'ailleurs du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, quand il a participé à cette réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 de l'Union européenne à New York en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Donc, à l'heure à laquelle on enregistre, à laquelle on se parle, effectivement, la France est soutenue, a été rejointe par l'Europe et par un soutien affiché cette fois des chancelleries et des pays européens. Par contre, Christophe, ce qui est sûr, c'est que c'est long, hein, entre jeudi à l'heure à laquelle auquel la crise a éclaté et mardi, on a eu 5 jours où on avait l'impression quand même que la France est resté assez isolé sur la scène européenne dans cette affaire des sous-marins. Et c'est surprenant pour deux choses, Christophe. Pour moi, c'est surprenant d'abord, et ça a été très bien rappelé par les mots de l'ambassadeur Jean-Pierre Thébault ici en français en Australie, c'est que le problème, c'est que c'est pas simplement la dénonciation d'un contrat, c'est que c'est la mise à mal d'un partenariat stratégique entre deux pays, mais même entre beaucoup plus d'entités dans une zone extrêmement stratégique du monde qui est l'Indo-Pacifique. Et ça, vraiment, c'est là où on aurait pu se dire que c'était pas simplement à la France, j'allais dire, d'afficher sa surprise, sa colère, mais c'était d'avoir un soutien plus prononcé de l'Union européenne parce qu'encore une fois, c'est un partenariat stratégique sur 50 ans avec tout ce que ça implique de souveraineté nationale d'ailleurs pour l'Australie, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Christophe, par rapport à cette surprise autour de la non-réaction de l'Union européenne dans les premiers jours qui ont suivi la crise des sous-marins et la dénonciation du contrat, c'est qu'en parallèle, c'est pas comme si rien ne se passait entre l'Union européenne et l'Australie. En parallèle, on est au 11e round de négociation d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie. On sait que les rounds de négociation, certains ont été plus difficiles que d'autres. Donc, il se passe des choses très importantes entre l'Union européenne et l'Australie à l'heure où, en plus, la France, Christophe, va prendre la présidence de l'Union européenne en janvier prochain. Et donc, c'est là aussi où on se dit, pourquoi l'Europe a tant tardé à réagir alors qu'on est en plein dans cette négociation et que c'était aussi pour elle l'opportunité de parler d'une voie politique et pas simplement en tant que zone de libre-échange économique améliorée, mais de parler de cette voie politique au moment où une crise majeure survient entre un de ces pays phares et l'Australie. Et donc pour moi, c'est vraiment, il reste encore ces deux interrogations, ces deux incompréhensions sur la non-réaction de l'Union européenne dans les premiers jours qui ont suivi cette crise des sous-marins.
Est-ce qu'on peut évaluer également la réaction australienne? Ils n'ont pas l'air très surpris du mécontentement de la France, ils s'y attendaient sûrement. Mais il y a eu des mots quand même qui ont été assez forts. Je pense à Barnaby Joyce qui a aussi dit l'Australie n'a rien à prouver, on l'a déjà prouvé pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, fair qu'un État comme l'Australie ait des réponses quasi officielles comme ça?
Alors, je vais dire peut-être quelque chose de pas très politiquement correct, Christophe, vous m'en excuserez, mais tout ce qui est excessif est un peu insignifiant. Et donc, finalement, la réaction de Barnaby Joyce au vu du personnage et cette comparaison entre la Seconde Guerre mondiale et ce qui s'est passé dans ce partenariat, pour moi, est assez insignifiante. J'allais dire, c'est du même ordre que certains déferlements de haine ou propos complètement hors contexte sur les réseaux sociaux. Non, ce qui est pour moi plus intéressant et plus intéressant à analyser, c'est que du point de vue australien, on a mis en avant quelque chose qu'on n'arrive pas encore à faire en Europe, c'est le Australia First. C'est que en fait, pour Scott Morrison et pour les principaux membres du gouvernement, à l'heure à laquelle, encore une fois, l'accord a été dénoncé, à l'heure à laquelle l'accord AUKUS Australie-UK-US a été signé, la meilleure chose à faire pour l'Australie, c'était justement de dénoncer ce contrat et de signer avec les Américains et les UK. Et donc, cette raison justifie pleinement le fait d'arrêter la collaboration avec la France sur cette histoire des sous-marins. Il y a une vraie allégeance à la realpolitik et à l'intérêt suprême de l'Australie dans cette histoire-là du point de vue australien. Et donc, ce qui explique aussi le fait que finalement, les réactions australiennes, elles sont assez calmes, assez tempérées, assez pragmatiques par rapport aux réactions françaises. Alors, après, l'Australie a aussi la part belle dans ce jeu-là, puisque c'est pas eux qui perdent ce contrat, mais je pense que ce côté-là de les intérêts australiens d'abord, mais de la même manière, Christophe, pour moi, en fait, Biden, c'est non pas le retour, mais c'est la continuation du America's First du America First sur la scène internationale. C'est juste qu'en Europe, on peine encore une fois, à avoir ce European Union First quand il s'agit de défendre nos intérêts, ce que peut-être ont moins de remords à faire à la fois nos alliés australiens et nos alliés américains.
Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Récupère la petite, angoisse la petite, embrouille la petite, et maintenant colle la petite. Coller, 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 coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Zanga, 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 zanga la petite.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec le Camerounais Franco et ce morceau qui s'intitule « Coller la petite ». Un morceau qui, à vrai dire, à l'ère de la distanciation physique, a plutôt mal vieilli, mais qu'ici, on aime encore beaucoup. En ce qui nous concerne, on se retrouve samedi à 13h pour une nouvelle émission en direct. Et entre-temps, vous pouvez bien entendu continuer à nous écouter quand vous voulez en podcast. Il suffit pour cela de vous abonner à notre chaîne SBS French. Je remercie Nathan pour l'assistance technique qui a permis la réalisation dans de bonnes conditions de cette émission aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt.
Récupère la petite, embrouillez la petite, angoissez la petite, et maintenant collez la petite. Collez, 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 collez.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où
où vous obtenez vos podcasts.